On s'est réunis autour d'un verre.
On a parlé d'art et d'histoire.
On a fait un podcast.
Bienvenue sur Godet Amos. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Godet Amus, le podcast qui vous parle d'art et d'histoire autour du bonne bière. Alors, autour de moi ce soir, j'ai en ma compagnie Charles.
Bonjour.
Arne.
Bonsoir.
Et exceptionnellement ce soir, nous avons Lucie.
Bonsoir.
Bienvenue Lucie.
Bienvenue, on est trop content de te voir.
Merci.
Alors, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir? On va vous parler des Compagnies des Indes. Vous allez voir qu'on va parler un petit peu plus spécifiquement de la Compagnie des Indes qui nous concerne, à savoir la Compagnie d'Ostende, n'est-ce pas Arne? Même si ça te fait mal de...
Mais non, je ne souffre pas. Non, on va parler de la Compagnie d'Ostende, de la Compagnie des Indes occidentales néerlandaises, mais ne vous inquiétez pas, oui, étonnant bien sûr, mais il y a des bonnes raisons à ça, c'est que les liens avec la Belgique, enfin en tout cas avec le territoire belge, sont vraiment évidents, et donc ce serait trop bête de ne pas en parler. Mais ne vous inquiétez pas, on parlera également de l'anglaise, de la française, pas tellement de la danoise, parce que voilà...
S'en fout.
Bah, j'ai pas fait de recherche,
ni de la suédoise.
Ni de la suédoise, ni toutes les autres, parce qu'il y a eu beaucoup de compagnies finalement.
Une flopée,
mais quelques pays avaient vraiment des grandes compagnies. Les Français, les Anglais, les Néerlandais. Alors, on coupera pas ça, s'il te plaît. Parce qu'on a perdu la Coupe du Monde, mais on n'a pas peur des morts.
Surtout que dans le dernier podcast, on se disait, tiens, on enregistre juste avant le match, on verra si on sera déprimé ou pas, et voilà. On a quand même la pêche.
On a la pêche.
Donc tout va bien. Et justement, pour parler de cette compagnie, donc, nous avons Lucie qui nous a donc rejoint ce soir. J'ai dit, il y a donc beaucoup trop souvent, mais ça n'est pas grave. Nous avons donc Lucie en notre compagnie pour parler de la Compagnie des Indes, parce que tu es une grande spécialiste du sujet, n'est-ce pas?
Grande spécialiste, bien entendu, surtout de la période, j'ai envie de dire, ou en tout cas de la période de transition, mais... En effet, c'est un plaisir.
On en entendra plus tout de suite après. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous.
Merci, pour moi aussi.
Alors, pour aller avec ce podcast, nous allons boire un type de bière bien particulier, à savoir les IPA, à savoir les India Pale Ale.
Une vedette, cette bière.
Et si tu veux bien le dire, il faut dire IPA.
IPA.
Voilà.
IPA.
Dude.
Très chouette IPA. Donc, évidemment, il y en a énormément. Donc, on a fait une petite sélection de trois bières bien spécifiques. On va revenir tout de suite sur ces trois bières. Mais avant toute chose, on va les ouvrir.
Bah oui.
C'est parti.
Charles.
Hop. Merci.
Voilà. Quelle belle mousse.
Oh oui, quelle belle couleur.
C'est parfait.
Alors, nous avons débuté par la Vedette IPA, qui est donc une bière qui a 5,5 degrés d'alcool. Donc, c'est une bière vraiment très légère. C'est parfait pour débuter. L'India Pale Ale, c'est une bière qui est inventée pour le commerce avec l'Inde. À savoir, il fallait abreuver tous ces colons britanniques qui se trouvaient à l'époque dans les Indes. On reviendra un peu plus tard sur la notion d'Inde qui est assez large à l'époque. Mais en tout cas, tous ces bons hommes étaient complètement assoiffés. Il fallait faire une bière qui tienne le coup, justement, parce qu'elle allait passer de nombreux mois en cale dans les bateaux. Donc, il fallait résister aux différences de température et...
À l'humidité aussi.
Et à l'humidité, tout à fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est y mettre énormément de houblon. Parce qu'on considère à ce moment-là que le houblon va très bien conserver la bière. Donc, ce sont des bières encore actuellement fortement houblonnées, même si elles n'ont plus du tout le même goût que les bières à l'époque. Alors, l'India Pale Ale, en général, c'est une bière très claire, donc plutôt blonde. Même si du côté des Belges, on va aller vers des bières plutôt fortes, qui vont parfois se rapprocher des triples. Ce sont les États-Unis, hein, dans les années 80, qui ont l'idée de refaire... des Pale Ale, et la Belgique va arriver beaucoup plus tard, mais on va avoir justement le savoir-faire de toutes les brasseries qu'on aura en Belgique qui vont se mettre dans la production de ces Pale Ale, voire India Pale Ale. Et c'est une bière assez intéressante, donc comme on l'a dit, elle est plutôt blonde, il y a plus d'amertume, généralement c'est plus aromatisé, c'est parfois même un peu fruité, hein, ça c'est donné par le houblon. Alors c'est parfois un peu difficile de catégoriser une bière comme étant India Pale Ale, parce qu'on se dit, voilà, il y a une catégorie, et puis dans cette catégorie on peut en retrouver trois, il y a l'anglaise, il y a l'américaine, il y a l'impériale. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de types de houblon. Et du coup, selon la brasserie, selon tout ce qu'ils vont mettre dans cette bière, on va avoir des saveurs qui peuvent être complètement différentes. Donc voilà, on fait débuter l'origine de cette bière au 19e siècle. Alors, on est un peu incertain quant à l'origine exacte. Et la toute première personne qui va envoyer justement ce type de bière dans les Indes. Mais on sait que très vite, ça va connaître un succès assez important et que du coup, en Angleterre, ils vont vouloir boire cette bière également. Donc, ça ne va pas être qu'une bière d'import, export. On va également la consommer sur place. Alors, j'aimerais simplement qu'on la déguste tous ensemble.
Oui, tout à fait.
Alors, est-ce que vous...
Faisons chine.
Allez, santé tout le monde.
Sans casser les dés.
Non, bien sûr.
Il y a déjà une odeur assez fruitée.
Oui.
Je ne crois que très léger, elle a beaucoup de corps.
Elle est très douce.
Ouais. Moi, je la trouve douce, oui. Très agréable.
Et il y a une touche d'amertume aussi qui est...
À la fin.
Ouais.
Qui est assez en deuxième bouchée, enfin, gorgée.
Plutôt. Oui, et puis il y a un goût qui surgit après, après la gorgée, justement. Qui reste en bouche.
Ouais, comme on dirait pour le vin, la longueur en bouche. Enfin, voilà, je ne sais pas si le terme vaut aussi pour la bière. Mais...
Je ne sais pas, je ne suis pas zytologue.
Pour les besoins du podcast, on pourrait essayer d'aller suivre des cours de zytologie.
Bien sûr.
Oh yeah.
Ça pourrait être intéressant. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est une bière super fruitée. En fait, c'est super bien pour l'été, mine de rien. Absolument.
Ma foi, comme nous sommes encore en été, ça fonctionne parfaitement bien.
Ouais. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu lourde.
Mais oui, mais c'est très paradoxal parce qu'elle est vraiment super légère. Je dirais que c'est pas une bière de table, mais un peu de choses près. Et pourtant, je trouve qu'elle a une texture particulièrement prononcée. Quoi.
Donc, elle a du cachet. Ça, c'est indéniable. Ok.
On attendait tous impatiemment.
Non, attends, moi j'ai
menti à ce qu'ils qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on doit faire?
J'étais en train de dire le sommaire. Je vous laisse vivre.
C'est indéniable.
Alors, on vous a parlé de la bière. Évidemment, on reviendra sur les différentes bières qu'on va déguster pendant la soirée. On espère qu'elles seront assez variées. On essaie de faire un petit panel assez sympathique. Mais venons-en au fait. Et parlons de la Compagnie des Indes, des Compagnies des Indes, comme on peut le dire. Alors, Lucie, est-ce que tu peux nous donner quelques petits mots sur le contexte général du développement de ces compagnies?
Bien sûr. Alors, on est là dans une période qui s'appelle donc les temps modernes. Modernes pourquoi? Parce qu'on adopte une pensée, on adopte une manière de concevoir les choses qui est tout à fait différente du Moyen-Âge et donc qui permet de faire une transition entre un âge d'entre-deux, un âge moyen, et un âge beaucoup plus ouvert.
Est-ce qu'on peut mettre un petit repère?
Le bon chronologique.
Chronologique.
Oui, alors, les temps modernes, on les fait généralement débuter entre 1453 et 1492, en fonction des événements qu'on a envie de retenir pour délimiter le début de cette période. Et le Moyen-Âge, ben, lui, il couvre une période beaucoup plus longue, qui va de 476 à donc, le début des temps modernes, donc 1492, qu'on retiendra. Donc ça veut dire qu'on est vraiment à la toute fin du 15e siècle et où on a ce changement de mentalité justement qui va passer d'un point centré sur l'Europe à une ouverture sur l'humain qu'on va découvrir dans d'autres contrées. Donc les grandes découvertes, ça dit bien ce que ça veut dire. Elles ont été initiées par les Portugais, Christophe Colomb en tête de file, qui lui va découvrir le continent américain. Alors c'est là que les choses commencent un petit peu à devoir se préciser parce que Christophe Colomb voulait en fait atteindre les Indes par un autre chemin que celui ouvert par les Vénitiens au XIIIe siècle, à savoir à travers la Méditerranée et le Moyen-Orient. Donc en partant vers les Indes, il tombe donc sur le territoire américain qu'on connaît aujourd'hui, et il va découvrir toute une série d'autres populations, donc des populations que ce soit des indigènes, que ce soit des populations animales, des populations, on ne va pas parler de végétales, mais en tout cas on va parler d'espèces différentes, et donc il va y avoir là un intérêt qui va se développer. Alors comme je l'ai dit plus tôt, ben, cette initiative elle vient des Portugais très tôt, qui va surtout s'axer sur le versant économique des grandes découvertes et de l'ouverture, et suivi de près par des Espagnols qui, à l'inverse, eux, vont avoir plutôt une envie de découvrir, mais pour aller coloniser de manière beaucoup plus forte et destructrice au niveau des populations locales.
Alors, peut peut-être préciser que si on a cette envie de rejoindre les Indes, c'est justement d'un point de vue économique, commercial à la base, comme tu le disais, pour aller chercher des épices, des tissus précieux. Enfin, il y a toute une route de...
Il y a toute une panoplie en fait, de produits qu'on va pouvoir aller retrouver là-bas sur place. Donc ça passe par les épices, mais ça passe aussi par les tissus d'habillement. Tout ça, évidemment, pour être au service de l'aristocratie européenne. Rappelons que les petits paysans n'ont même pas conscience que tout cela existe, bien entendu.
Charles, une petite...
Et le but étant, précisons, je dirais, les Occidentaux vont développer à un moment la véritable obsession de trouver en fait une parade, si j'ose dire, la route de la soie classique pour aller augmenter le rendement, etc. aussi. Donc, comme tu le disais très bien tout à l'heure, on ne quitte pas en fait les objectifs premiers de Marco Polo et de son père au XIIIe siècle, et c'est toujours la même mouvance depuis le Moyen-Âge central et plus tardif.
Oui, tout à fait.
Mais les Vénitiens, ils contrôlent à mort la Méditerranée, en fait, pendant toute une période, et c'est vrai qu'après, le reste se faisait avec des caravanes.
Oui, tout à fait.
Pour ramener l'entièreté des denrées précieuses. Effectivement, à un moment donné, naît l'envie de relier les Indes en bateau.
Oui.
Donc, on part vers l'ouest. Et donc, du coup, les Amériques, on va les appeler les Indes orientales.
Non, les Indes occidentales.
Occidentales. Oui. C'est bien de se tromper dès le début. Sinon, c'est marrant.
Voilà.
Mais tout à fait, les Indes occidentales.
Oui, c'est ce qui nous permet de faire la différence, d'ailleurs, entre la route des Indes orientales et la route des Indes occidentales. Et puis, c'est aussi une nouvelle manière, quand on va vers les Indes telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais c'est que plutôt de transiter par les terres qui sont quand même beaucoup moins rapides que les bateaux, même si la distance en soi est beaucoup plus courte, c'est que les bateaux n'ont qu'à, avec plein de guillemets, subir juste les aléas météorologiques. Que sur Terre, il y a la météo, mais il y a aussi les brigands, il y a aussi les taxes qu'on doit payer et les moyens de transport qui ne permettent pas de ramener autant de quantité par terre que par mer.
Plus tu réduis les intervenants, plus tu augmentes ton profit.
Exactement.
C'est parfait.
Néanmoins, s'il faut tout de même préciser en termes de risque, c'est que si les voyages sur Terre n'étaient pas étaient loin d'être tranquilles, vu que les brigands étaient assez abondants sur les chemins et que la route de la soie était hyper longue, c'est que quand on voit par exemple l'expédition de Christophe Colomb, il n'est pas parti avec deux rafios, je dirais, à l'autre bout du monde. Il savait très bien qu'il allait en perdre en cours de route, et donc je dirais, les risques sur les voies maritimes étaient tout aussi importants, quoi. Mais aussi en termes d'histoire de la navigation, ce que je trouve intéressant de préciser, c'est que cette époque-là, c'est le premier moment où les Européens cessent de faire ce qu'on appelle du cabotage. Donc ça veut dire qu'ils avaient l'habitude pendant tout un temps d'avoir des bateaux qui étaient faits pour naviguer en eau moyennement profonde, donc juste au large des côtes, et que là on commence à s'attaquer à typiquement la caravelle, à des bateaux qui sont faits pour les grands fonds, qui sont faits pour affronter le large, qui n'était pas du tout le cas avant. Donc,
ce qui permet aussi d'ailleurs à cette époque d'affiner beaucoup plus les cartographies des océans et des terres qu'on disposait à l'époque.
Très juste.
Donc ces fameuses Indes, d'un côté, sont des territoires nouveaux, donc à l'Orient et à l'Occident, et sont également le sujet d'implantation de différents comptoirs. Vu qu'une des dimensions qui était importante là-dedans, c'était la dimension économique, aller chercher des produits dont on n'avait pas la capacité de production en Europe exclusivement. Et donc ces produits, ils devaient à un moment donné être traités sur place. Donc l'intermédiaire, c'était des comptoirs coloniaux qui étaient gérés par des colons venus des métropoles européennes pour pouvoir gérer les marchandises sur place. Et donc progressivement, ces institutions d'utilité publique, j'ai envie de dire, se sont mises en place et ont été reprises par des initiatives privées, étant donné que le chemin faisant, les générations de colons s'installent sur les territoires colonisés et donc récupèrent progressivement la gestion de ces comptoirs à titre privé, et c'est là qu'on voit apparaître les compagnies.
Donc, Charles, tu veux...
Non, j'ai juste précisé que, parce que par rapport à la terminologie de la colonisation, si j'ose dire, que... c'est juste à préciser que quand on parle de comptoir et de colonie, c'est deux réalités très différentes, et que par exemple, Lucide évoquait les Portugais brièvement tout à l'heure, et bien en fait, la grande spécialité des Portugais, justement, c'était les comptoirs, contrairement à d'autres pays qui sont lancés dans une colonisation plus classique, comme typiquement l'Espagne, alors que le comptoir est vraiment une entreprise à bureau purement économique et qui n'a pas du tout, enfin, ou pas spécialement du moins, de viser l'expansion territoriale. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont là pour procéder à des échanges les plus rentables possibles, en créant une espèce d'enclave nationale sur un autre sol. Mais la visée n'est pas la même qu'une politique de conquête coloniale. Quoi. Donc,
en gros, voilà, le comptoir, ouais, parfois on parle de factories aussi en anglais. Ouais. Donc c'est vraiment un point bien précis par lequel vont transiter différentes denrées. Donc c'est vraiment un port, le bateau arrive, on fait l'échange, on remplit les cales, hop, on repart. La particularité de ce port, c'est qu'on a certains ports qui vont rester des comptoirs un peu plus internationaux. Donc n'importe quel bateau va pouvoir y rentrer pour faire du commerce. Mais on va avoir très vite justement les comptoirs plus nationaux. Et à ce moment-là, vraiment, on a une nation, enfin, sans utiliser le terme nation encore à l'époque, on a vraiment un pays qui va prendre possession d'un petit bout de territoire. Et alors, vraiment, ils vont se faire l'exclusivité des denrées qui vont pouvoir arriver par ce point bien précis. Donc, c'est vrai que cette idée de comptoir, ça existe déjà auparavant sur les côtes africaines, malheureusement pour la traite d'esclaves. Ça a commencé à se développer quand même assez fortement. Mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin, donc comme on l'a dit, vers les Indes. Donc là, il va avoir toute cette notion de défense de ces comptoirs qui va être assez intéressante aussi. Donc on va avoir parfois des forts qui vont apparaître, on va avoir des, voilà, toutes les notions de gardes, de soldats qui vont rester en garnison dans certaines villes aussi, parce qu'on va être bien conscient de l'importance de certains points stratégiques justement pour recevoir ces différentes denrées. Parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est que tout cela se fait toujours en lien avec les populations locales, et du coup c'est chaque fois dépendant du chef qui est présent sur place, qui va avoir certains accords avec certains pays. J'ai voulu dire nation encore une fois, mais voilà, avec certains pays. Et que donc, c'est selon les bonnes ententes entre les différents souverains que vont se faire justement ces échanges. C'est
aussi intéressant. Et parfois aussi, ben, les mésententes, étant donné qu'il y a cette notion de concurrence aussi qui se met en place et qui oppose, ben, certains pays sur le monopole du commerce d'un produit ou de l'autre qui vont ramener en Europe.
Mais ce qui crée aussi une très grande différence, ce que je disais dans la différenciation terminologique entre le comptoir et la colonie, c'est justement le fait de cette dépendance par rapport à l'autorité locale. Dans la colonie, on ne s'en encombre quasiment pas, ou du moins on va aller utiliser politiquement les autorités locales qui vont vite devenir des pantins au service, je veux dire, de volonté d'expansion européenne. Et ce qui ne sera pas nécessairement le cas dans les comptoirs, parce que parfois ils vont tomber sur des autorités très fortes avec lesquelles ils vont devoir composer et auxquelles ils vont devoir demander véritablement des autorisations de commercer. Et ce qui explique d'ailleurs la présence militaire qu'on évoquait tout à l'heure dans ces comptoirs, parce qu'il s'agissait parfois de pouvoir peser en face de ces autorités locales et de pouvoir exercer une autre pression qu'en parole auprès de ces gens-là pour arriver à négocier des contrats commerciaux, etc.
C'est pour ça que selon les régions, le type de comptoir ne va pas être pareil. Par exemple, en Chine, ça va être plutôt commerçant, vraiment, on aura une grosse indépendance des comptoirs, alors qu'en Inde, justement, on va avoir quelque chose d'un peu plus particulier, où les différentes compagnies vont pouvoir jouer sur les chefs locaux et vont se faire la guerre, finalement, par population interposée. Donc ça, c'est assez intéressant de voir comment, justement, ces comptoirs vont avoir un développement différent selon les régions. Arne, est-ce que tu as une petite précision sur les comptoirs à nous apporter ?
Non.
Non, très bien.
tu pourras enlever ça du montage.
Très bien, j'enlèverai ça du montage.
Non, mais moi, en fait, je vais vous parler de l'avènement des compagnies. Alors, bien sûr, je vais parler de la principale de l'époque, qui est la VOC, la Verenigd Oost-Indisch Compagnie, donc la Compagnie des Indes, la Compagnie Unie des Indes orientales, ça, je m'embrouille déjà complètement.
C'est de ma faute.
C'est complètement de ta faute. J'ai d'abord commencé avec le contexte dans lequel ces compagnies sont apparues. Donc, Lucie l'a mentionné tantôt, on a clairement une domination mondiale du Portugal et de l'Espagne, notamment par le traité de Tordesillas qui donne l'Est au Portugal et l'Ouest à l'Espagne. Alors bien sûr, après, en plus, on a une union ibérique de 1580 à 1640, donc, c'est-à-dire une union entre l'Espagne et le Portugal qui font que, du coup, leurs territoires deviennent vraiment énormes. Et il y a vraiment une domination du commerce par la péninsule ibérique. Alors bien sûr, il y a d'autres pays qui ont envie également de profiter des richesses des Indes. Et ce qui se passe aussi, à l'époque, donc, nos territoires des Pays-Bas, c'est-à-dire la Belgique et les Pays-Bas actuels, sont sous domination espagnole. Mais il va y avoir une guerre, il va y avoir une révolution qui va démarrer à Anvers, d'ailleurs, donc pour dire l'importance et les liens qui unissent encore ces territoires. Donc, à Anvers, va vraiment démarrer cette guerre des 80 ans, qui va séparer définitivement ce qu'on appelait à l'époque les Provinces Unies des Pays-Bas méridionaux, donc les Pays-Bas espagnols d'abord, et puis qui deviendront autrichiens.
Nos régions,
oui. Tout à fait, nos régions pour préciser. Donc la guerre des 80 ans commence au milieu du XVIe siècle. Clairement, il y a là un nouvel État qui se crée et qui veut aussi s'enrichir, comme absolument tous les États. Et ce qui va se passer, cette guerre, elle va clairement avoir des répercussions, notamment sur le commerce, et sur, par exemple, le prix du poivre, qui va très très fortement augmenter. Et ça, vraiment, en tout cas pour les Néerlandais, donc les Provinces-Unies à l'époque, ça va avoir un impact très important, parce qu'eux aussi auront envie d'avoir accès à des épices à un prix abordable et surtout pouvoir les revendre à un prix bien cher. Donc à l'époque, on a une série de commerçants qui essayent, et d'explorateurs qui essayent de trouver aussi un passage vers les Indes. Les Néerlandais essayent d'abord vers le nord. La mer des Barents, ça s'appelle comme ça, c'est nommé après un explorateur hollandais. Et les Anglais aussi vont essayer. Et ce qui va en tout cas attiser un peu la curiosité des Anglais, c'est le fameux épisode de l'invincible Armada en 1588. C'est-à-dire qu'à l'époque, Philippe II aimerait bien envahir l'Angleterre, qui à l'époque est selon lui païenne, qui n'est donc plus dans
anglicane.
Qui devient anglicane, qui n'est plus dans le culte catholique. Les Anglais défont complètement la flotte espagnole.
Avec un petit peu de chance.
Avec un petit peu de chance, tout à fait. Avec beaucoup de chance, avec l'aide des éléments qui n'a clairement pas aidé les Espagnols. Mais en tout cas, ils découvrent quand même des grands navires. Ils découvrent aussi des trésors qui se cachent dedans. Et les Anglais vont clairement se dire il faut absolument qu'on concurrence... il faut qu'on arrête ce monopole portugais-espagnol. Il faut qu'on trouve nos propres routes. Et c'est ainsi qu'eux, en tout cas, une série de marchands, d'aventuriers, vont demander clairement à la reine Elisabeth Ier de pouvoir créer une compagnie et d'avoir un monopole sur le commerce des Indes. Et c'est ainsi qu'en 1600 va naître la première compagnie des Indes, une anglaise, qui est en soi, en fait, comparée à la néerlandaise, une très petite compagnie. Les Néerlandais, eux, vont avoir un peu la même chose. Le fils, moi, j'ai beaucoup.
Le coq qui gonfle. Ah.
Mais sachez juste que je me définis plus ces derniers temps comme belge que comme hollandais.
Ah, seulement ces derniers temps.
Seulement, ça passe.
Depuis qu'on te connaît, tu nous sors ça.
Clairement. Mais, pardon, je...
On peut préciser aussi pourquoi l'Angleterre est arrivée si tard dans la course au territoire, au Nouveau Monde, comme la France d'ailleurs, parce qu'ils étaient tous les deux occupés aussi à se battre l'un l'autre et à se livrer une guerre pendant que l'Espagne et le Portugal avaient la route qui leur était toute ouverte.
Oui, sans compter que les Anglais avaient également une guerre interne, une guerre interne qui était ce qu'on appelait la guerre des Deux Roses, la guerre qui va amener... La famille Tudor, donc la famille du fameux roi Henri VIII et Elisabeth Ier d'ailleurs, sur le trône d'Angleterre. Donc l'Angleterre va être à feu et à sang pendant quasiment 50 ans sur la fin du 15e, début 16e siècle, ce qui va la tenir à l'écart de la plupart des événements européens d'ailleurs.
Et surtout à l'époque, la ville la plus importante commerciale du monde quasi, du monde occidental, c'est Anvers, qui domine en effet complètement le commerce. Du coup, c'est un grand problème pour les Espagnols quand éclate cette guerre de 80 ans. Et
faut savoir qu'on est sous domination espagnole.
On est sous domination.
C'est pour ça que c'est intéressant.
Sous domination, c'est un grand mot. C'est les Espagnols qui règnent dans nos belles contrées. Tout à fait. Et donc, c'est eux qui détiennent vraiment, véritablement, avec les Portugais, le monopole du commerce.
Et donc, à la fin de cette guerre.
Je reviens à cette guerre, et c'est là que c'est vraiment intéressant pour les Hollandais, c'est là que l'union, le fait qu'on était espagnol a son importance, c'est que beaucoup de marins, du coup, hollandais, ou même de belges, étaient au service des Espagnols, Et c'est ainsi qu'on va avoir, en tout cas aux Pays-Bas, un certain Jan Huygens van Linschoten, qui a un beau nom bien hollandais.
Oh, merci Arne.
J'ai pas utilisé mon meilleur accent, j'avoue. J'ai vraiment fait des efforts. Qui va vraiment faire un espèce d'espionnage industriel qui est parfait. Donc cet homme est parti pendant une bonne dizaine d'années au service des Portugais, au service de l'évêque de Goa, pour plus précisément, qui était à son service, qui va revenir dans notre territoire et qui va tout d'un coup se rendre compte « Ah, oups, une guerre a commencé ». Parce que bien sûr, il n'y a pas Internet à l'époque. Il fallait attendre qu'on revienne au pays pour voir que la situation avait quelque peu changé, mais qui justement avait pris toute une série de notes et qui va sortir un livre qui s'appelle « L'Itinerario », qui est véritablement une carte d'accès à l'Inde, et qui va donner son itinéraire à une série de marchands. Et à l'époque se crée justement une compagnie, une première compagnie qui s'appelle la Compagnie van Verre, qui va, le 2 avril 1595, armer 4 navires pour partir vers l'Inde via le chemin donc décrit, parce que le chemin était donc jusqu'à l'inconnu aux Hollandais, qui va donc décrire ce chemin. Ils vont y arriver, ils vont arriver donc en Indonésie, à Java notamment, et ils vont revenir avec un chargement pas trop mauvais, et ils vont se faire un peu de profit, mais ça n'aura rien de grand. Mais par contre, ça va vraiment créer un esprit d'entreprise gigantesque, et vont se créer à leur retour plusieurs compagnies à Amsterdam et dans d'autres villes hollandaises. Et en 1599, on a notamment 3 compagnies d'Amsterdam qui fusionnent, qui envoient une nouvelle expédition, et là par contre, en 1599, les profits explosent. On parle de plus de 300% de revenus, et c'est là vraiment que se créent encore beaucoup plus de compagnies. Et du coup, dans les Provinces-Unies, on se rend vraiment compte que... Ouais, les profits, c'est important. On se rend vraiment compte qu'en fait, cette multiplication des compagnies, ça peut vraiment avoir un grand problème, notamment, ça crée beaucoup de concurrence entre elles, et donc ça ruinerait les profits des Provinces-Unies. Et là, les États généraux, vu qu'à l'époque, les Provinces-Unies, c'est une république dirigée par des États généraux, exigent que ces compagnies fusionnent en une seule compagnie. Et ça devient la fameuse VOC, la Compagnie des Indes Orientales, qui va devenir donc une compagnie, elle, vraiment gigantesque. Je disais tantôt que la Compagnie des Indes anglaise, comparée à l'hollandaise, merci pour le gros coup, clairement, parce qu'en fait c'est une société anonyme, donc avec un capital boursier. Donc non seulement on crée la première multinationale, mais on crée également en même temps, c'est le début de l'importance de la bourse, parce qu'on émet toute une série de titres d'action, et là-dedans vont investir beaucoup de Belges, justement, parce que voilà, tous des Belges qui fouillent la répression qui a lieu dans nos régions, qui fouillent vers le nord, et donc vont investir dans cette compagnie des Indes orientales. Et en plus de ça, on a vraiment limite le premier partenariat public-privé qui se crée de l'époque, vu que les États généraux donc accordent un monopole sur le commerce des Indes, mais en plus autorisent la compagnie à nommer des gouverneurs, ils autorisent à construire des forts, ils autorisent à mettre en place des lois.
Et donc, si c'est des États généraux, qui sait.
Ouais, donc les États généraux, c'est parce que les Provinces-Unies, c'est une république, vu qu'à la base, nos provinces sont gérées par le roi d'Espagne. D'abord par Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain et roi d'Espagne, puis par son fils Philippe II. Sous Philippe II va avoir lieu c'est le début de cette guerre de 80 ans. Et donc aux Pays-Bas, on va créer à la place une république qui n'a clairement rien à voir avec nos républiques actuelles. Notamment, un des instigateurs, c'est Guillaume d'Orange, qui est un noble. Donc, il y a clairement toujours une importance de noblesse. Mais c'est vrai que va quand même s'affirmer une bourgeoisie qui va se réunir en états généraux, comme ça se faisait en fait depuis les Bourguignons. On a parlé dans notre dernier podcast de Marie de Bourgogne, on a parlé un peu des états généraux, je pense. Je ne sais plus.
Ouais, on a parlé.
On en a parlé, magnifique. Ce système va un peu perdurer, va se modifier. Ça va notamment être des riches bourgeois qui vont accéder au pouvoir. Et donc, ils vont donner à la compagnie vraiment une série de pouvoirs qu'on dit régaliens, en échange d'un armement. Et donc, vraiment le premier partenariat public-privé de l'époque. Et c'est là que c'est parti et que cette compagnie va mettre en place un monopole sur le commerce des épices que les autres n'auront pas.
Moi, j'aimerais revenir sur une dimension importante que tu as abordée dans ton introduction, c'est la volonté, l'esprit d'entreprendre. C'est qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, donc au temps moderne, au tout début, on a l'apparition d'un média, si on peut l'appeler comme tel, qui va favoriser aussi cet esprit d'entreprendre, cette curiosité, cette volonté de découvrir, d'aller s'installer dans des territoires nouveaux et d'aller tenter l'aventure. Que ce soit par l'intermédiaire de croquis, soit par l'intermédiaire de récits de voyage, d'expériences, etc. Et donc ce fameux média, c'est l'imprimerie qui permet de donner accès à toute une partie de la population beaucoup plus rapidement à des écrits, à des expériences qui peuvent nourrir donc tout ça. Et cette partie de la population, bien qu'elle soit quand même très très faible en pourcentage, donc on avoisine les 2%, voire les 3%, mais là, grand maximum, comme tu l'as dit, il s'agit de l'aristocratie, de la bourgeoisie, et qui sont quand même les grands mécènes qui vont avoir accès à cette connaissance et qui vont donc avoir aussi, par leur grande fortune et leur grande richesse, la possibilité de financer toutes ces expéditions.
Je pense qu'il y a deux facteurs très importants qu'il faut souligner là-dedans. C'est d'une part, on a précisé plusieurs fois donc l'impact de la couronne d'Espagne était très important sur les anciens Pays-Bas. Mais ce dont il faut bien être conscient aussi, c'est que les Espagnols vont, au cours du XVIe siècle, se développer un empire colonial particulièrement colossal. Pensons à Hernán Cortés au Mexique, etc. Je veux dire, on est vraiment ils sont dans une véritable boulimie, une sorte d'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Mais le gros problème de cet empire-là, c'est d'une part la guerre de 80 ans dont on a parlé tout à l'heure, et en plus de ça, la thésaurisation. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans un empire qui mène une guerre qui est un véritable puits sans fond, parce que 80 ans, c'est long, on dirait ce qu'on voudrait. Il y a des troupes à payer, des mercenaires à payer, des officiers, des canons à faire fondre, etc. Ça mobilise des moyens fous. Et en plus de ça, les quantités d'or qui sont absolument pharaoniques, qui proviennent du Nouveau Monde, en fait, elles ne sont pas... Enfin, soit elles sont pompées par la guerre, soit elles finissent en fait dans les caisses royales. Il y a très peu de réinvestissement qui permet en fait une espèce de mise en marche d'une économie prospère qui permettrait à l'Espagne de connaître un véritable essor. Donc certes, elle est prestigieuse, fortement étendue et efficace militairement dans un premier temps, mais après ça, il y a une sorte de stagnation et d'enfouissement, on pourrait dire ça comme ça. Et alors, deuxième petite précision aussi, c'est que ça, c'est, je mettrai en parallèle ce que Lucie a dit, ce que Arne a dit aussi, donc Lucie en parlant de l'imprimerie, c'est qu'une des grandes forces des Pays-Bas, des Pays-Bas septentrionaux à ce moment-là, dans les Pays-Bas actuels, ça c'est une hypothèse tout à fait personnelle, mais à laquelle je crois très fortement, c'est le fait que ce sont des États qui sont particulièrement libéraux au sens quasiment contemporain du terme. Donc ça veut dire que ce sont des États dans lesquels qui pratiquent une très grande tolérance religieuse et qui justement ont comme sorte de mortier national, on va dire ça comme ça, vraiment d'instrument de cohésion nationale. Le souci de s'unir autour du négoce et ce genre de choses pour fédérer en quelque sorte des intérêts particuliers vers un but commun. Et en fait, ça, la pluralité religieuse le permet. Donc c'est un pays dans lequel, quand j'ai pluralité religieuse, c'est vraiment très grand pour l'époque. Il faut se rendre compte que dans l'Europe dominée par le catholicisme, donc typiquement l'Europe espagnole et l'Europe française, eh bien on se retrouve dans des états où, tout ce qui n'est pas catholique est persécuté, qu'il s'agisse de protestants, qu'il s'agisse de juifs, de quelques musulmans, éventuellement les libres penseurs, c'est encore pire que tout. Mais il faut se dire que par exemple une personne comme Baruch Spinoza qui se serait fait littéralement massacrer sur le sol français ou autre, a vécu aux Pays-Bas pendant longtemps. Certes, il était trop libéral pour la communauté dans laquelle il vivait, mais je veux dire, personne n'a été collé sur un bûcher parce qu'il y avait des idées qui dérangeaient. Et donc, je pense qu'en fait, cette dynamique de libre pensée, cette cohabitation libérale a pu permettre pas mal de choses en termes d'esprit d'entreprise. C'était ma parenthèse, merci.
Ben justement, j'aimerais rebondir sur cette parenthèse fort intéressante, et surtout sur la thésaurisation, parce que tu as tout à fait raison, et c'est en effet ce qui amène un peu, qui d'une part amène l'Espagne et le Portugal à leur perte, et d'autre part qui amène l'avènement des compagnies hollandaises et anglaises, parce que la compagnie anglaise, surtout au début, est beaucoup moins que la hollandaise basée sur le commerce, mais surtout sur la capture des navires ennemis. Leur but, c'est vraiment d'entraver le commerce espagnol et portugais de s'enrichir. Et donc, ce qu'ils vont vraiment faire dès le début, c'est capturer un maximum de ces navires. Alors que les Hollandais seront plus prudents au début et iront vraiment sur le commerce. Les Anglais, eux, attaquent vraiment direct. Par contre, après, les Hollandais vont mettre en place une deuxième compagnie qui s'appelle la Compagnie des Indes Occidentales, qui elle est beaucoup moins romantique que la Compagnie des Indes Orientales, parce que donc, d'une part, elle va avoir de nombreux corsaires à son service qui vont clairement s'attaquer aux flottes espagnoles et ramener de très grandes sommes, et qui d'autre part sera énormément active dans la traite négrière. Et donc voilà, c'est ce qui amène bien sûr les nombreux désastres qu'on connaît, dont les répercussions sont encore visibles aux États-Unis aujourd'hui.
Et alors, oui, donc je vais juste dire, en termes de ce que tu as évoqué, je veux dire, cet aspect belliqueux des compagnies des Indes, mais en fait ça me fait penser à l'état de leurs moyens de fonctionnement, hein, de ces compagnies des Indes. Ça veut dire qu'on se retrouvait, comme tu as dit tout à l'heure, dans des compagnies qui en fait trimbalaient, je dirais, autour du globe des intérêts colossaux. Donc qui dit intérêts colossaux dit intérêts particuliers, donc ça veut dire qu'il faut absolument, il faut protéger ces gains, soit potentiels, soit acquis, le plus possible. Et en fait, c'est ce qui va amener dans le développement de la technique maritime, je dirais, de ces compagnies, une sorte de souci d'innovation. Ça veut dire qu'on ne va pas se retrouver, contrairement à la marine de cette époque-là, qui était, je veux dire, dans laquelle il y avait certains navires qui étaient marchands, mais très peu protégés, et puis des navires de guerre à côté qui étaient faits pour être efficaces et rapides, et bien avec la Compagnie des Indes, on se retrouve dans un mix des deux. Donc ça veut dire que, typiquement, celle des Pays-Bas que tu as évoqué tout à l'heure, et bien on se trouve dans les cas où on va trouver des bateaux qui sont vraiment très musclés et qui sont un mélange entre un navire de commerce et une frégate. Pourquoi ? Parce que la frégate, c'est ce navire qui est léger, qui est rapide, qui est extrêmement chargé en canon, qui est d'une efficacité terrible, et en même temps, on va profiter de l'occasion pour alléger les ponts le plus possible, mais jusqu'à parfois mettre en danger les conditions de vie de l'équipage, parce que ce qu'on va faire, c'est que normalement tout bateau a une cale qui est destinée à l'eau douce, voyant ce qui est tout à fait capital lorsqu'on traverse des étendues de mer pareilles. Eh bien, dans le cas de ces compagnies-là, on ne va pas hésiter à les rogner sur l'espace de cette cale-là, justement, pour pouvoir entasser plus de marchandises. Et ce qui est intéressant, et c'est assez amusant d'ailleurs, c'est de voir que, donc bon, tout en temps, comme disait Arne, on va avoir une lutte franche entre les compagnies. Le but clair et avoué est de couler un maximum des autres pour arriver à simplement, je veux dire, briser, je veux dire, la puissance maritime des autres nations, des autres compagnies des Indes. Et alors, en fait, plus le temps va passer, plus soit des compagnies va évoluer, plus le rapport à l'armement va changer aussi terriblement. C'est-à-dire qu'on va voir au tout début que la compagnie va suivre l'évolution...
On peut faire la pause. Accompagner pour la suite du podcast, nous allons boire une petite Martin's IPA, si je le prononce bien.
Tu l'as super bien prononcé.
Merci tout le monde. Qui est donc une petite bière qui nous vient d'Anvers.
Et contre tout.
Qui est...
J'ai pas osé le faire.
Putain, il est tard. On est au bout du rouleau.
Pas des bouteilles,
effectivement. Donc, qui est une bière qui est donc brassée depuis 1909. Et qui a un magnifique petit bateau sur son étiquette, qui symbolise parfaitement Les rapports commerciaux avec les Indes. Vous voulez dire quelque chose ou quoi, les gars? Tu veux de ma gueule? Et c'est moi qui ai ramené cette bière, hein. Tu vas bien aller te faire foutre.
Tiens, ouvre-la plutôt.
L'authentique India Pale.
Bah non, c'est de la vie comme ça, moi, de lui laisser comme ça.
Caractérisé par une amertume prononcée, j'ai du mal à lire, et un caractère fruité grâce à son houblonnage à sec.
Si c'est pour faire un peu de la bière, là ça sert quand même pas à grand chose.
Parce que bien après c'est l'expression, on se déguste avec ça.
Un enculé. Donc, refermentons.
Houblon, 34%.
Mais je suis le seul sérieux dans ce truc, quoi.
Il se prononce cerveau dans l'espagnol.
Même Lucie, elle dit rien, mais c'est la pire aide que je puisse recevoir. Donc, une bière qui fait 6,9 degrés. Il est impossible de voir qu'on en a bu beaucoup d'autres avant d'arriver à ce moment, j'ai envie de dire.
Pas facile, facile.
Bon, est-ce qu'on l'ouvre ou pas?
Ah, mais eux,
ils ouvrent leur gueule. Alors, viens, j'ouvre la cabine.
Non, non,
moi,
on prend un petit peu. Hein, donc,
Putain, ça ne passera pas. Ça ne passera pas.
Un petit peu, ça. Non,
pas évident.
T'as oublié de préciser que c'est une bière interdite aux femmes ça.
Est-ce qu'on peut procéder à la dégustation?
Certainement.
Alors déjà, on remarquera qu'elle est un peu plus foncée que la bière précédente.
Elle est déjà plus translucide que transparente que l'autre.
En fait, elle attaque un peu plus vite en bouche, mais c'est pour ça qu'elle a beaucoup plus de saveur.
Ben moi, je préfère, par contre.
Non, mais en fait, elle est bonne. Ouais, ouais. Elle est plutôt... Ça, Arne, tu l'as même pas encore goûté. Tu bois ton autre tout à
l'heure. Mauvais traître.
Ouais. Attends, je vais mettre de l'eau dans ma bière.
Elle a plus d'amertume que l'eau, je trouve.
Bah, c'est peut-être plus une IPA que la vedette qui, n'oublions pas, sur l'étiquette, il a mis
pas
India Pale Ale, but not really from India and not really a pale ale.
Charles, tu avais des choses à nous dire.
Oui, donc nous étions en train d'aborder la question de l'armement. Et ce que je disais simplement, c'est que le rapport entre armement et rentabilité a toujours été assez particulier. Donc j'évoquais ces cales dont des comportements absolument dans des compartiments absolument nécessaires, comme celui de l'eau potable, étaient parfois, diminués fortement au profit justement de la capacité en marchandises, et qu'on intercalait des canons en entrée. Donc ce qui est assez amusant aussi de voir, c'est que au fur et à mesure de l'histoire, donc l'évolution du XVIIe siècle, mais surtout au XVIIIe siècle, on voit qu'il y a une certaine... Le XVIIIe siècle qui est réputé comme étant un beau siècle, relativement pacifié, à part des événements comme la guerre de 7 ans, etc. Et donc, c'est une époque où on va voir justement le nombre de canons diminuer progressivement. Je dirais, l'armement, de manière générale, dans la compagnie des Indes, enfin dans les armées européennes, plutôt les armées classiques, complètement en dehors des compagnies, va tendre vers une augmentation du nombre de canons, vers un développement des calibres, etc. Et les compagnies des Indes vont suivre ce rythme-là jusque, je dirais, vraiment à la fin du dernier tiers du XVIIe siècle. Mais à partir de ce moment-là, je veux dire, ils vont stagner, ils vont arrêter de suivre l'évolution militaire systématique pour justement parfois réduire le nombre de canons, ou du moins rester la même chose. Donc la course à l'armement n'est plus la même, comme si ça témoignait, je veux dire, d'une certaine, vous voyez, suprématie maritime en quelque sorte, ou d'une facilité d'affirmation sur les eaux, etc. Et donc voilà, ça c'était particulièrement important à savoir. Donc il faut vraiment considérer que, oui, les compagnies des Indes sont des flottes, et particulièrement celle des Pays-Bas, mais ce sont bien plus que des flottes marchandes, ce sont des flottes aussi tant marchandes que militaires. Enfin, on reviendra sur ce sujet par après. Je vois que, si je ne m'abuse, la transition porte directement vers justement ce qui concerne la vie, précisément dans ces raffios.
Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un témoignage?
On a un témoignage, on a en fait plein de témoignages, parce que, comme Lucie l'a dit tantôt, les gens qui ont accès à l'écriture, ben, c'est l'aristocratie, c'est les riches qui forment bien sûr une partie de l'équipage, parce que les officiers souvent, ou les marchands qui accompagnent les bateaux, sont souvent, bah, voilà, sont souvent des gens lettrés. Par contre, ce qui forme quand même la grande majorité, même les trois quarts du personnel des bateaux, c'est les matelots et les soldats. Et d'eux, au fait, on a très très peu de témoignages, justement, à une exception près, ou à, allez, il y en a probablement plus, mais il y en a une qui est vraiment notable, en tout cas pour la Compagnie des Indes Occidentales, c'est un certain Carolus van der Haag, qui est un Flamand, un Belge, tout à fait. C'est un Flamand qui par une histoire d'amour, figurez-vous, d'après son propre témoignage.
C'est le romantique de la bande.
C'est le romantique de la bande, c'est tout à fait le romantique de la bande. Et c'est aussi le seul, qui vers 1700, en tout cas un des seuls soldats qui sait écrire. Et on a gardé ses écrits. Parce qu'il a été en procès, et donc du coup, on a gardé son journal de bord qu'il a tenu pendant assez longtemps. Et donc, une sombre histoire d'amour l'amène à quitter sa Flandre natale pour venir s'installer en Zélande. Et en fait, son installation en Zélande nous illustre vraiment comment est-ce qu'on recrutait les marins. Parce qu'il faut savoir que Charles a un peu décrit les navires. Et déjà dans la description de Charles, on peut comprendre que la vie à bord, bon, pour les officiers, limite ça va, mais pour les matelots et les soldats, qui, comme je l'ai dit, forment quand même les trois quarts du personnel, leur vie est franchement pas drôle. Surtout quand on se rend bien compte qu'un tiers, uniquement un tiers des marins qui sont partis avec la compagnie ont survécu et sont revenus au pays. Les deux tiers sont morts, soit lors du trajet, soit sont morts sur place aux Indes, parce que voilà, le taux de mortalité était vraiment énorme, et là aussi, on vient d'attendre dans le déclin, le taux de mortalité est une des raisons du déclin de la Compagnie des Indes occidentales.
Tout en précisant que j'évoquais tout à l'heure le fait que j'ai relayé que les bateaux partaient très nombreux, dont le cas de Christophe Colomb que je citais. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en général, quand un bateau partait d'un port, on recrutait bien plus de marins que nécessaire. Parce qu'en fait, les capitaines étaient parfaitement conscients que le taux de mortalité en mer était toujours particulièrement élevé. Parce que les causes sont multiples. Je disais tantôt que des éléments tout à fait nécessaires, comme par exemple l'eau potable, étaient parfois atteints, si j'ose dire. Eh bien, il pouvait en aller de même. Au niveau des réserves, il suffisait, donc c'est encore une navigation à voile, donc on est tributaire du vent et des courants. On n'a pas de moteur d'appoint comme un voilier peut l'avoir aujourd'hui, donc ça veut dire que il arrivait à ces bateaux d'avoir parfois des périodes de stagnation en haute mer, où, mis à part maintenir un cap, ils n'avaient rien fait, ils restaient dans l'eau calme, ils n'avançaient pas du tout. Et donc, quand on se trouve en défaut de riz, par exemple, avec sa coque, quand on se retrouve en défaut de fruits et légumes frais, de poissons frais, d'eau potable, il y a des maladies, par exemple, comme le scorbut ou le choléra, etc., qui se développent, et qui se développent d'ailleurs avec une rapidité fulgurante, étant donné qu'il faut considérer que dans ces ratios-là, qui ont beau être particulièrement grands, la plupart des hommes dorment tout de même sur le pont la nuit, et donc ils dorment l'un à côté de l'autre pour se réchauffer justement, et donc ça permet et facilite énormément la transmission des maladies, et ce qui engendre parfois des taux de mortalité assez impressionnants, d'où l'importance des escales sur ce genre de trajet-là, pour aller ravitailler en produits frais et en eau douce. Voilà pour la parenthèse.
Ouais. Ça peut être intéressant d'essayer de s'imaginer un petit peu ce que ça pouvait être pour un marin de quitter son pays, d'embarquer pour un bateau, comme par exemple celui sur lequel a embarqué ton bonhomme, qui s'appelle
Carolus Charles, hein, van der Haag.
Voilà, tellement de Charles. Il
y a tellement de Charles importants.
Carolus Paul.
Donc voilà, on quitte son pays avec toutes ses habitudes, la petite vie qu'on a pu mener auparavant, on embarque pour des mois sur un bateau, on est parti en pleine mer, on fait escale dans des pays dont on ne connaissait que le nom, si on le connaissait même auparavant, en rencontre les autochtones qu'on ne connaissait pas du tout, On découvre des denrées qu'on n'avait pas l'habitude de manger et de consommer. Justement, on peut imaginer un bateau voilà, sur lequel il y aurait des bananes, par exemple, alors qu'on n'avait pas l'habitude d'en manger. On va devoir arriver jusqu'au comptoir commercial, dans lequel on va justement progresser au milieu des bateaux étrangers, au milieu des bateaux qui sont déjà présents sur place. On peut imaginer en Chine, quand on arrivait sur un comptoir, sur certaines îles, les étrangers n'avaient pas le droit de débarquer sur les îles. Donc, en fait, il fallait débarquer sur des jonques qui nous emmenaient dans le centre. Et après, on devait rester uniquement en périphérie de la ville ou en périphérie voilà, du comptoir. Et puis seulement après, on pouvait repartir avec toutes ces cales chargées de porcelaine, d'épices, de soie et repartir chez soi. Ça devait être quand même un voyage extraordinaire, malgré les difficultés.
C'est clairement... ça devait être extraordinaire. Mais comme Charles l'a dit, extraordinaire aussi dans le sens très négatif du terme, parce que non seulement, oui, t'as en effet la présence des maladies avec le scorbut hein, qui vient du manque de vitamines.
On perd ses dents.
Alors, mais comme tu dis, en effet, il y a beaucoup de découvertes. Les bateaux, on les chargeait en denrées alimentaires pour aller jusqu'au Cap. Au Cap, on se ravitaillait, donc en Afrique du Sud. Et après, on était parti pour le résouvage, et clairement, c'était d'autres denrées qui venaient à bord. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de vraiment voir comment est-ce qu'on recrutait les marins, parce que comme Charles l'a dit, on avait vraiment un très grand besoin de marins. Au tout début, au XVIIe siècle, on pouvait encore se montrer assez sélectif. Au XVIIIe siècle, il y a vraiment eu des problèmes de main-d'œuvre, et on enrôlait vraiment n'importe qui, tellement il y avait un manque de main-d'œuvre, et du coup, en fait, les conditions à bord ne sont pas améliorées, mais se sont dégradées justement. Et comment est-ce qu'on recrutait ces marins ? En Angleterre, souvent, c'était de force. Aux Pays-Bas, c'était un peu différent. On avait affaire à ce qu'on appelle des vendeurs d'âmes. C'est la traduction littérale, en tout cas, du terme Zielverkopers. Donc, en gros, prenons le cas de notre Carolus, qui donc vient avec son histoire d'amour manquée. Qui dit il faut absolument que je me casse et il débarque en Zélande. Qu'est-ce que la première chose qu'on fait quand on arrive dans un nouvel endroit ? On cherche un toit. Et donc, un aubergiste fort sympathique de la petite bourgade de Middleburg, que je vous conseille d'aller visiter, c'est très beau, c'est en Zélande. Donc, qui arrive dans cette petite bourgade, il a besoin d'un toit, ben voilà. Et voilà justement de ces vendeurs d'âmes qui va s'occuper de trouver à notre petit Carolus un toit. Qui après va l'inciter à acheter quelques boissons, à prendre des repas, à jouer un peu, et au fait va inciter notre bon ami Carolus à s'endetter un maximum, et qui après va proposer à Carolus, tiens, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tes finances, mais en échange, hop, voilà un petit contrat de 7 ans pour t'embarquer sur un navire de la Compagnie des Indes et aller à l'autre bout du monde. Et c'est comme ça que ça se faisait, en gros. On repérait vraiment des pauvres âmes, des nouveaux arrivants. Surtout, voilà, il y avait vraiment beaucoup de mouvements. Il y a toujours aujourd'hui beaucoup de mouvements de population. C'est quelque chose qui s'est toujours fait. Hein, beaucoup de migration, ça se fait toujours et ça se fera toujours. C'est tout à fait naturel. Bien sûr, n'ayons pas peur. Donc ça s'est toujours fait. Et ben, donc à l'époque aussi, voilà, beaucoup de gens qui arrivent. Mais du coup, il y a toujours énormément de profiteurs aussi. Ça a toujours eu lieu aussi. Et qui en profitent voilà, pour prendre l'âme de ce pauvre matelot. Hop, il est enrôlé et c'est parti pour 7 ans. Et souvent, en plus, c'était un cercle vicieux parce qu'après 7 ans de service, quand on avait la chance de revenir... quand on avait la chance de revenir au port, eh ben on était reparti dans quelques bonnes beuveries et on se faisait à nouveau des dettes au jeu, ainsi de suite. Et donc on était reparti pour 7 ans de service. Et du coup, voilà, ça explique aussi pourquoi si peu de marins sont revenus au pays, c'est tout simplement que leur service était vraiment très très bon. Et donc le voilà qui l'embarque, notre Carolus. Il faut savoir, donc Charles l'a dit, les bateaux, ils sont adaptés. Les matelots, les soldats, donc. Tout le personnel un peu pauvre sont tous entassés à l'avant. Tous les endroits où il y a de l'espace, c'est pour les officiers et c'est pour les passagers. Parce qu'il y a aussi beaucoup de riches passagers. On a d'ailleurs à ce sujet quelques anecdotes de notamment des jeunes filles qui ont embarqué pour les Indes et du coup qui d'une part meurent d'ennui parce que, comme tu disais, les voyages étaient très longs. Parfois, on était en effet immobilisés. Mais en plus de ça, même malgré eux qui étaient dans des relatives bonnes conditions, se plaignaient de la puanteur, avaient l'impression que c'était horrible, et donc ils essayaient de coudre des draps pour essayer de, d'arrêter un peu cette horrible puanteur, parce que comme Charles disait, et ça favorise en effet les maladies, bah on est complètement entassé. Alors j'aimerais juste dire encore un dernier petit truc sur un peu les conditions de vie. J'ai trouvé j'ai pas personnellement bien sûr trouvé dans les archives de la VOC, mais j'ai regardé donc une des archives qui était visible dans quoi consistaient les repas. Et ben c'était beaucoup de genièvre, enfin beaucoup. En gros, on donnait dès le matin un tout petit peu, un demi bonnet de genièvre par personne. Un peu de bière, peut-être, je ne sais pas si c'est les India Pale Ale, mais en tout cas, on donnait un peu de bière tant qu'elle restait bonne. C'était vraiment bien mis dans les comptes de la compagnie. Après, à midi, on avait un peu de viande tant qu'elle restait bonne, parce que celle-là aussi restait clairement pas bonne tout le temps. Un peu de soupe de petits pois et quelques cornichons. Et puis le soir, on donnait encore un peu de genièvre, et puis limite les restes de ce bon repas. En gros, des trucs pas très... Bon, c'est sympa. C'est aussi, c'est tant qu'il en reste, c'est tant que ça reste bon. Et donc, si le voyage commençait à durer, ben, c'est logique, on commençait à manquer de vitamines, et puis on a du scorbut. Donc voilà, c'est assez dur. À côté de ça, il faut pas oublier aussi que la vie à bord, c'est assez sévère. On a tous les châtiments corporels pour la moindre insubordination. La mutinerie, elle, bah, c'était carrément la peine de mort. Et surtout au XVIIe siècle, la VOC avait vraiment tendance à considérer n'importe quelle mutinerie, ne fût-ce qu'un soldat ou un matelot qui se plaint, ce qu'on appellerait aujourd'hui une grève, en gros. Juste une grève, il se plaint, voilà, il y a quelque chose sur le navire qui va pas, non mais je vais pas continuer dans ces conditions-là. Hop, c'est bon, t'as un mutin et on te tue. Donc voilà, donc on estime vraiment que plus ou moins 7% des marins mouraient sur le trajet de l'aller. Une bonne partie mourait sur place, notamment ben, dans les Indes, il y avait beaucoup de malaria, surtout vers au XVIIIe siècle, en tout cas en Indonésie, donc dans les comptoirs hollandais. Et donc voilà, et puis encore une partie qui mourait bien sûr sur le chemin du retour. C'était jamais évident. Donc une aventure extraordinaire, certes, mais une aventure difficile que personnellement je n'aimerais pas vivre.
L'aventure d'une vie, en fait.
Mais une aventure d'une vie.
Jolie. Oh. Très beau. Je te remercie de nuancer mes propos, Arne.
Avec plaisir.
Parce que voilà, moi, je suis dans le rêve, l'aventure, et toi, t'es
mais c'est vrai que je trouve que les compagnies des Indes ont un côté romantique, ont d'exploration, côté rêveur, découverte. On part loin, on découvre des nouveaux mondes, un peu comme maintenant, j'imagine, la conquête spatiale peut faire rêver, alors que c'est des trucs méga dangereux. Voilà, bon, peut-être un peu différent, mais on fait plus attention.
Par contre, c'est pas mal de juste préciser, parce que depuis tout à l'heure, on parle de compagnie des Indes, alors que l'on part Inde, on entend bien l'Inde actuelle, et on va bien jusqu'à l'Asie,
la Chine, le Japon, pour ce qui concernait les Hollandais, vu qu'ils avaient un monopole sur le trafic avec le Japon.
Ah, c'est très très large.
C'est très très large.
Et en se disant, pour rebondir aussi justement là-dessus, que les premiers au final à avoir abordé après Vasco de Gama, etc., mais je veux dire dans les Indes au sens moderne du terme, je dirais ce sont les comptoirs portugais du 16e siècle qui ont été les premiers florissants dans ces eaux-là. Donc c'est une destination qui était déjà tout à fait prisée de nouveau en tentative de contournement de la route de la soie, comme je le disais tout à l'heure. Et alors, tu parlais donc toujours de cette vie à bord, et tu as évoqué brièvement la question aussi d'une présence armée, donc tu as parlé des soldats et des matelots. Et alors, ce qui est très important de savoir, et je pense que j'ai déjà brièvement abordé tout à l'heure, je ne sais plus exactement, mais ce qui est très important de savoir, c'est que donc justement, quand la compagnie a commencé, la compagnie des Indes a commencé à fortement se développer, c'est devenu une véritable, quasiment multinationale avant l'heure, du moins une société anonyme, en tout cas, un énorme machin. Et qui dit très gros moyens, donc comme je dis tantôt, très très gros bateaux, des capacités de canonner, etc. Mais à côté de ça, les intérêts de la compagnie, ils devaient pouvoir être assurés aussi bien à bord en cas d'abordage, en cas de bataille, etc. Mais en plus, sur le sol, une fois parvenu à terre, il fallait pouvoir garantir les intérêts. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien tout simplement, les compagnies se sont mis à engager parfois des régiments entiers. Alors il faut savoir que donc a développé vraiment une armée au sens strict du terme, quasiment une armée privée. Donc je veux dire, les compagnies ont commencé à vraiment développer, enfin à développer une sorte d'état dans l'état. Enfin, on reviendra sur cette notion plus tard. Et mais donc il y a des régiments qui viennent de partout en Europe, mais qui viennent de régions particulières aussi en Europe. À savoir que quand on regarde l'histoire de la guerre au temps moderne de manière générale, eh bien les pays au début des temps modernes, donc en sortant du Moyen-Âge, la guerre se professionnalise, c'est-à-dire qu'on arrête de sortir, enfin d'être dans une guerre avec comment les paysans du village ou les gens des villes qui prennent les armes pour les battre avec leurs seigneurs. On a des armées de plus en plus importantes, et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les recruter, en clair, des gens qui n'ont rien à manger, qui vivent dans des terres un petit peu moins riches, plan agricole ou commercial, etc. d'Europe. Donc, par exemple, la Suisse, certaines régions d'Allemagne et autres. Quand on pense aux gardes suisses au Vatican, c'est exactement le même cas au XVIe siècle aussi. Et donc ici, on a beaucoup de régiments qui vont venir notamment de certaines régions d'Allemagne et autres, mais donc vraiment des quatre coins de l'Europe, et qui vont, ce sont, bien que ce soit des régiments institués, ce sont, au sens étymologique du terme, vraiment des mercenaires. C'est-à-dire ce sont des gens qui vont combattre pour le plus offrant, là en l'occurrence une richissime compagnie commerciale, et qui vont embarquer avec. Alors, certes au départ, ces soldats se trouvent dans les bateaux, mais évidemment, le but est d'amener l'essentiel d'entre eux dans les points, dans les ports dans lesquels s'arrêtent, je veux dire, les bateaux de la Compagnie des Indes, pour pouvoir sécuriser l'ensemble de la vie de ces ports. Et alors, quand on dit mercenaires, on peut dire mercenaires et régiments, bah oui, une bande de brutes armées comme ils pouvaient. En fait, pas du tout. Lorsqu'on regarde de nouveau ces fameuses archives très riches de ces compagnies, eh bien, on voit des hommes qui, là, je parle plutôt de la première moitié du XVIIIe siècle, vont être vraiment habillés comme des soldats d'armée régulière. D'après les uniformes que j'ai vus, ça ressemblait principalement à l'armée française, donc avec des uniformes, uniformes. C'est vraiment exactement les mêmes couleurs, le même chapeau, le même type de fusil, etc. Et donc, on a vraiment une armée de métiers, en sachant que c'est assez interpellant de voir ça dès le début du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que, en fait, les armées, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les armées ont beau obéir à un monarque particulier, etc., elles ne vont pas pour autant porter les couleurs de ce monarque. En général, sur les champs de bataille d'Europe, on combat juste habillé comme on est, avec une cuirasse au sens strict du terme, donc un vêtement en cuir pour se protéger. Mais le port de l'uniforme tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on va le connaître au XIXe siècle, c'est encore loin d'être le cas à l'époque. Et en fait, c'est Louis XIV en France qui va se mettre à systématiser le port de l'uniforme. Et comme c'est un roi qui a un charisme particulièrement important à l'époque, et qui va même aller influencer des personnes comme Guillaume d'Orange, dont on parlait tout à l'heure, enfin, et même la dynastie d'Orange de manière générale. Et l'Europe entière va recevoir l'influence de la France. Et donc, de ce fait-là, il est assez intéressant de voir que cette compagnie des Indes, très tôt au XVIIIe siècle, donc encore sous l'époque du règne de Louis XIV, donc il meurt en 1715, on a ce premier uniforme, cette systématisation de la tenue militaire qui se crée. Donc il y a vraiment l'idée d'une institutionnalisation de cette compagnie, je dirais, militaro-commerciale, ou plutôt dans l'autre sens d'ailleurs. Voilà, donc l'abondance militaire est tout à fait primordiale, les militaires sont tout à fait primordiales dans leur rang aussi.
Et on va avoir une petite compagnie qui va s'ouvrir dans nos territoires belges actuels, à savoir les Pays-Bas méridionaux, qui sont donc, comme on le disait tout à l'heure, hein, suite à ce fameux conflit entre les Pays-Bas du Nord et les Pays-Bas du Sud, entre les territoires des Provinces-Unies, on va avoir donc ces territoires néerlandophones. Et on va avoir chez nous les provinces, non, je confonds.
Pays-Bas méridionaux.
Les Pays-Bas méridionaux qui vont être sous domination autrichienne.
D'abord espagnol.
On est d'abord espagnol.
D'abord espagnol sous les Habsbourg d'Espagne.
Sous les Habsbourg. Et puis on a un changement des Habsbourg, voilà, d'Autriche. Et on passe sous domination de Vienne. Mais donc, à un moment donné, il faut imaginer qu'on a nos régions, mais privées d'Anvers.
Non,
Pays-Bas. Non, on n'a pas Anvers. Anvers, l'estuaire de l'Escaut est fermé.
Voilà.
Les Pays-Bas.
Ça, c'est différent. Ouais. Donc, le port d'Anvers existe. Donc, Anvers, c'est clairement Anvers qui a commencé le soulèvement des Provinces-Unies. Mais par contre, après, les Espagnols ont bien sûr attaqué les villes. Donc, beaucoup de villes en Belgique était du côté de l'insurrection. Après, bah, bien sûr, il y a eu toute la reconquête espagnole qui a envoyé les ducs d'Albe et puis de Parme, je pense que c'est dans cet ordre-là, si je ne m'abuse, pour reconquérir. Et c'est ainsi que c'est plus ou moins fixé le territoire belge, comme il est maintenant vraiment à la très très grosse louche, parce qu'il y a, eu encore de mouvements entre les deux. Mais Anvers, qui était un port extrêmement important quand Amsterdam a supplanté, est donc revenu aux mains des Espagnols. Mais en effet, à un moment, les Pays-Bas ont fermé l'estuaire.
Comment est-ce qu'ils ferment l'estuaire de
l'Escaut ? Alors, c'est très simple. La Zélande fait donc, en gros, Anvers, l'Escaut, donne sur les Pays-Bas. Donc, c'est-à-dire qu'Anvers est une ville belge, mais son estuaire, donc son accès maritime vers la mer du Nord, est dans le territoire des Pays-Bas. Actuel.
Donc on a une fermeture de l'Escaut par les Pays-Bas.
Qui dépend, tout à fait. Oui, du territoire ennemi.
Et en soi, c'est toujours un peu le cas maintenant, parce que le passage des navires, le passage des navires de très gros tonnage dépend toujours du bon vouloir des autorités néerlandaises à bien vouloir racler le fond de l'estuaire, parce que sans cesse se mettent des sédiments, et si on veut que des gros navires passent, mais il faut que le gouvernement néerlandais accepte de draguer le fond. Et si c'est pas le cas, bah, du coup, ça sent sable et l'Escaut est fermé.
On parlera du Zwin et de Bruges.
On parlera du Zwin et de Bruges une autre fois.
Mais donc voilà, l'estuaire de l'Escaut est fermé par les Pays-Bas. Et donc, du coup, naît l'envie d'ouvrir une compagnie des Indes également sur les territoires belges. Et donc, ça va se fixer à Ostende.
Et c'est aussi face, voilà, l'empereur d'Autriche voyant les succès des compagnies françaises, anglaises et hollandaises et scandinaves se dit aussi il me faut une part de ce gâteau fort lucratif.
Donc ça c'est Charles VI, hein, au tout début du XVIIIe siècle, l'empereur qui a envie de monter cette compagnie. Donc on va avoir différents comptoirs qui vont être établis le long du Gange. Donc bon, je sais pas si on mentionne quelques noms de comptoir, mais je ne sais pas si ça va vous dire beaucoup, mais en tout cas on a Ichapur dans le Bengale actuel. Enfin voilà, on a de nombreux noms qui ne vous diront peut-être pas grand chose, on peut vite les citer, c'est Cabellon, Dhaka, aujourd'hui Gondal, Para, Balasore, Sedabat et Kassim Bazar.
Tout ça pour réveiller l'envie d'aller visiter des contrées lointaines.
Tout à fait.
Bien dit.
Donc on va avoir donc une charte qui va être promulgué par l'empereur donc en 1722, comme ça vous donne un petit repère historique. Et donc le but c'est vraiment d'aller faire commerce vraiment sur les bords du Gange, mais aussi d'aller jusqu'en Chine. Et donc apparemment le commerce aurait été beaucoup plus lucratif avec la Chine, justement, où on aura ramené énormément de porcelaine, beaucoup de tissus, mais surtout beaucoup de thé dans nos régions. Alors le profit est assez énorme, on est à peu près à plus de 200-300% de profit en plus par rapport à la mise de départ. Ouais, voilà, 325% par rapport à notre mise première. Ça va tellement bien marcher que voilà, toutes les autres compagnies vont être un peu jalouses de l'un autre. On va monter à plus de 50% des bénéfices généraux par rapport à toutes les compagnies. Donc ça, Arne, toi, tu avais vu le chiffre aussi, hein.
Tout à fait. Ça va amener, en effet, une colère et un cartel. C'est une pratique qui se faisait déjà, qui est interdite de nos jours, mais qui se fait sûrement, qui se fait clairement, mais qui va amener un cartel entre les compagnies françaises, anglaises et hollandaises pour mettre pression sur Charles VI afin de fermer cette compagnie.
Non, on n'est pas du tout content de voir toute cette concurrence, surtout aussi proche. Hein. Ouais. Les Pays-Bas le voient d'un œil très mauvais.
Déjà qu'ils sont déjà concurrents entre eux, alors si en plus un nouveau joueur vient, bah, ça, c'est compliqué pour elles.
Il faut savoir que c'est en 1724 que part le tout premier navire. Donc en 1722, on autorise la création de la compagnie, mais en 1724, c'est le tout premier navire qui part. Et en fait, contrairement au tout premier navire, justement, que ce soit anglais ou néerlandais, là, c'est un vrai succès. Dès le tout premier navire, en même temps, ils profitent finalement de comptoirs qui sont aussi déjà existants, d'un savoir-faire qui est déjà présent.
Parce que, connaissances.
Il faut dire qu'au stand, il y a énormément de Français, de Néerlandais, d'Anglais qui se retrouvent dans le port et qui vont partir justement et se lier avec cette compagnie. On a justement un témoignage hein, d'un marin qui part, qui s'appelle André Landswirt. Il part avec l'impératrice en 1725, alors que lui a seulement 27 ans. Et donc, il part accompagné de plusieurs responsables commerciaux qui sont chargés des transactions économiques sur place. Et on précise qu'il y a 93 marins qui partent avec lui. Donc, on peut vraiment imaginer une centaine... de personnes qui partent sur ce bateau. Donc on fait bien une distinction, hein, comme on le disait, entre les militaires qui sont là pour protéger le navire, les marins qui sont là pour le faire fonctionner, et le personnel qui est présent et qui ne sera utile qu'une fois arrivé sur place, justement, pour réussir à avoir les meilleurs prix sur les différentes denrées. Et on précise que sur l'Impératrice, on a 28 canons, pour faire référence à ce qu'avait dit Charles tout à l'heure, justement. Et donc eux, ils vont partir, ils vont se faire... Le bateau est obligé de rester à quai, les marins doivent rester sur le bateau. Quand ils arrivent en Chine, là, ils ne peuvent pas débarquer. Donc il y a vraiment, au bout d'un moment, quand on imagine tout le temps qu'ils ont passé en mer, ils arrivent enfin sur place, ils ne peuvent même pas descendre du bateau, ils sont obligés de rester indéfiniment. Ben, on sent que là, ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir et de retourner chez eux. Et donc voilà, ils vont revenir avec énormément de tasses en porcelaine que vont se disputer les nobles et les bourgeoises d'Europe. Qui ont grand plaisir à les voir arriver, ainsi que tous les mets avec toutes ces épices un petit peu étranges qui vont débarquer chez nous. Donc voilà, un grand succès. Il faut savoir que les marins vont se faire un tout petit peu de bénéfice aussi sur leur trajet, donc ils vont avoir une solde, mais ils vont aussi revendre la pacotille, comme on l'appelle à l'époque. Donc c'est vraiment tous les petits restes, les choses qui ne pouvaient pas faire partie de la cargaison principale, et donc eux vont essayer de se faire un petit peu d'argent sur le côté. Apparemment, la compagnie des Indes d'Ostende est un peu moins regardante au niveau de la revente de la pacotille. Donc, par exemple, ce même André, lui, quand il va intégrer plus tard la compagnie des Indes française, lui, il va se faire un peu taper sur les doigts, justement, parce qu'il n'avait pas le droit de revendre de la pacotille comme il avait l'habitude de le faire, justement, à bord de l'Impératrice. Donc, cette compagnie d'Ostende va se développer. Malheureusement, elle va... Enfin, malheureusement, en tout cas, pour l'empereur, il va avoir un terme qui va être mis assez tôt, à savoir 1733.
Donc, sauf pour un des comptoirs qui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, les nouvelles, ça prend vraiment beaucoup de temps pour arriver.
Ouais.
Et donc un des comptoirs va lui continuer ses activités malgré la fin officielle de la compagnie.
Pendant encore 2 ans d'ailleurs.
Ah ouais.
Donc il y a deux facteurs hein, qu'on peut pointer pour pointer la perte vitesse de la compagnie d'Ostende. Le premier facteur relève un petit peu du domaine économique, c'est qu'au plus il y a de produits qui sont proposés sur le marché, au plus l'offre est donc importante, et donc au plus la demande ne va pas spécialement suivre à partir du moment où l'Europe est satisfaite en produits. Donc évidemment, pour écouler la marchandise qui est ramenée, les prix vont baisser. Alors pour des grandes compagnies, ça ne va pas tout de suite immédiatement poser problème, mais pour une petite compagnie comme celle d'Ostende, ne pas avoir de revenus va l'empêcher de pouvoir refaire des échanges, de renflouer ses caisses, et donc ça va être un premier facteur de déclin. Deuxième facteur de déclin, c'est qu'au niveau politique en Europe, les Pays-Bas autrichiens subissent la pression de 2 autres grandes puissances que sont la France et l'Angleterre quant à sa succession. Donc, à un moment donné, ces 2 grands pays voulaient mettre un veto à la succession du trône d'Autriche et donc empêcher la fille de cet empereur Charles VI de monter sur le trône. Marie-Thérèse, oui, j'y venais.
Pardon. Merci Charles. On avait dit qu'on ne coupait pas.
Oui.
Mais en gros, c'est vrai, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, en gros, on a cette petite compagnie qui débarque, qui fait un profit énorme, qui prend le pas sur toutes les autres compagnies qui sont installées, elles, depuis beaucoup plus longtemps. Tout d'un coup, on arrive, on prend les super comptoirs, on ramène plein de trucs en Europe. D'un coup, ça bloque un peu tout le monde. Alors, t'as et les Anglais, et les Néerlandais,
et les Français
qui pètent un câble et qui commencent à réclamer de plus en plus de trucs. Et à un moment donné, ils disent, bon, voilà, maintenant, c'est fini, quoi. Vous avez perdu votre grand allié, à savoir l'Espagne, qui n'est plus trop là pour vous protéger. Donc, à partir de maintenant, on se calme ou bien on va rentrer en guerre. Et en plus, niveau succession, on va vous taper un peu dans les dents, quoi. Donc, c'était plutôt sage de la part de l'empereur de laisser un peu tomber la Compagnie des Indes. Il faut savoir qu'à un moment donné, il va juste faire une sorte de pause pour la compagnie qui doit durer 7 ans. Mais on sait très bien qu'à partir de ce moment-là, ça va amener la fin de la compagnie. Mais comme tu me l'avais dit tout à l'heure, elle va quand même continuer un petit peu plus longtemps.
Oui, au moins pendant 2 ans. Le temps que les nouvelles arrivent et puis que les gens là-bas sur place acceptent aussi ceux qui se décident sur le continent.
Oui, il va y avoir un tout dernier comptoir qui va être pris finalement à un moment donné. Il va y avoir différents conflits aussi internes avec les différents chefs locaux. Et donc là, le fort va être pillé et le drapeau va être complètement enlevé. Alors que des Français s'étonnaient d'encore trouver un drapeau de la compagnie des Indes d'Ostende flottant au-dessus du comptoir, alors que la compagnie était dissoute depuis plusieurs années maintenant. Donc c'était... Là, ça marque vraiment la fin de la Compagnie d'Ostende. Là, c'est clair et net.
Oui, ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, ben, on a très très peu de traces, voire plus du tout de traces, du passage de cette fameuse compagnie aux Indes, parce que d'une part, elle a été très furtive, et puis d'autre part, ben, ils ont très vite été réquisitionnés pour autre chose. Donc cette occupation belgo-autrichienne, si on peut dire, a été très rapidement balayée.
Mais il reste apparemment quand même quelques traces. J'ai lu tantôt un poste de police qui était encore occupé. Enfin oui, donc la police dans je ne sais plus quelle ville qui occupait encore un des vieux bâtiments.
Alors moi j'aimerais vous lire un petit poème d'Émile Verhaeren qui nous parle justement de cette compagnie d'Ostende et que je pense que c'est une bonne manière de lui dire au revoir en lui lisant ce petit poème.
Vas-y.
Alors, puisque les cerfs d'or des aigles de l'Empire ne pouvaient déchirer les lions chargeant l'Escaut. Donc on nous parle bien à ce moment-là de l'Escaut qui est complètement fermé à l'Empire autrichien. C'était d'Ostende et de son port et de ses eaux que s'en allaient vers l'Orient les blancs navires. Ils partaient pour la Chine et touchaient Malabar. Les mousses étaient fières, les marins semblaient ivres, un petit peu comme nous, d'être aussi loin n'importe où sur la mer et de vivre, libre et fou, avec les mâts comme étendard. Merci Émile.
C'est magnifique.
Mal.
Comment enchaîner là-dessus ?
C'est très simple. Alors, la compagnie d'Ostende, c'est pas la seule compagnie à décliner. Finalement, elles ont quasi toutes décliné à un moment ou à un autre. Justement, la française à un certain moment, et la hollandaise, donc la fameuse VOC, elle aussi a fait faillite comme beaucoup des compagnies. La seule qui a vraiment survécu encore jusqu'à la moitié du 19e siècle, c'est la compagnie anglaise des Indes orientales. Et il y a plusieurs raisons à ça. Alors, pourquoi est-ce que la compagnie hollandaise, qui était si puissante, a complètement décliné ? On peut identifier plus ou moins 4 raisons à ça. La première, c'est la maladie, tout simplement. C'est-à-dire que c'est développé, notamment à Batavia, donc qui était devenue vraiment une colonie de la compagnie, s'est développé notamment de très grosses épidémies de malaria, avec le développement d'hôpitaux mais terriblement inefficaces, et bien sûr des populations qui même hollandaises, quand je dis hollandaises, bien sûr, il faut pas voir ça comme des Hollandais, étant donné que la grande une très très grande partie des gens venaient d'ailleurs des Pays-Bas, mais donc une grande partie, que ce soit des gens qui issus d'Europe, qui était implanté là depuis déjà de nombreuses années, ont quand même développé une certaine immunité, mais surtout la mortalité était très très grande parmi tous les gens qui arrivaient à chaque fois. Et donc, c'était un grand nombre de coups pour la compagnie, parce que c'était la compagnie qui devait gérer les hôpitaux, qui devait gérer tous les coûts liés au remplacement du personnel qui était malade. Et donc il y a une estimation qui a été faite que les coûts hospitaliers étaient de 1,2 million de florins par an pour donc gérer tous ces malades et pour gérer les hôpitaux, alors que les revenus de la compagnie étaient seulement estimés à 1 million de florins par an. Donc là, il y a clairement un calcul qui est très simple à faire et qui montre déjà qu'il y a un grand problème. Une deuxième raison, c'est la corruption. À l'époque ça sévissait autant que maintenant, et donc c'est très simple, des fonctionnaires qui s'en mettent plein les poches et qui ne redistribuent pas l'argent, ça donne un grand amas de monétaire dans le chef de quelques personnes, mais qui n'est pas du tout redistribué dans dans la compagnie et qui n'est pas redistribué dans les investissements. Donc voilà, ça c'est aussi, c'était un très très grand problème. Surtout qu'il faut bien savoir que la compagnie des Indes, c'est pas juste une métropole qui envoie ses bateaux, mais c'est également une colonie à Batavia qui est extrêmement puissante et qui gère son propre commerce. C'est aussi dans ça que la VOC est une véritable multinationale. Elle a vraiment plusieurs sièges indépendants. Donc voilà, mais je ne vais pas trop rentrer là-dessus. Alors on a une troisième raison, et ça on en a beaucoup parlé, c'est la concurrence tout simplement. Et surtout cette concurrence qui amène en fait des véritables guerres parfois entre pays. Et donc notamment, ce qu'on a eu, c'est ce qu'on appelle la quatrième guerre anglaise, qu'on appelle ça comme ça aux Pays-Bas. C'est en décembre 1780, c'est une quatrième guerre qui se déclenche entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Et ça résulte dans le fait que de nombreux navires de la VOC vont être capturés par les Anglais. Très souvent, ça se passera très pacifiquement, parce que tout simplement, beaucoup de navires ignorent complètement qu'ils sont en guerre avec les Anglais. Et donc, ils voient arriver des Anglais, ils disent « Oh, tu vois, voilà nos amis anglais ». Et au fait, non, nos amis sont devenus nos ennemis, on ne le savait pas. Et donc, voilà, ça se passe parfois de manière très pacifique. Voilà, on vient tout simplement vous prendre. Mais c'est le problème de tout ça, c'est très chouette, mais au moins, voilà, on peut être content que parfois ça se passe de manière pacifique, et que c'est pas toujours des combats sanguinaires sur les mers. Voilà, ça ne doit pas toujours être le cas, mais ça résulte en tout cas dans le fait que de très nombreux navires sont restés là-bas en Indonésie, dans les Indes, et n'ont pas pu revenir faute d'équipage, parce que les équipages mouraient, les équipages n'étaient pas renouvelés, les navires n'étaient plus entretenus, et donc on se retrouve face à une très très grande paire de navires chargés, mais qui ne peuvent plus revenir. Donc voilà, ça c'est vraiment un des très très grands problèmes, et donc dans les années 1780, on se retrouve vraiment avec une compagnie qui possède de très nombreux navires, mais qui ne sait pas du tout les rapatrier, et donc qui se retrouve avec un grand problème de trésorerie. Et enfin, la quatrième raison...
C'était pas déjà la quatrième ?
Non, ça c'était la troisième.
D'accord, excuse-moi.
Merci de suivre. La quatrième raison, c'est tout simplement la concurrence sur les denrées elles-mêmes. La VOC avait très bien réussi à avoir le monopole sur les épices, et au XVIIe siècle, c'est clairement les épices qui sont à la mode en Europe et qui se vendent comme des petits pains et à prix très cher, et donc qui explique aussi le succès. Sauf que il y a plein d'autres produits, que ce soit le coton ou la soie qui viennent de l'Inde, le café qui vient de l'Arabie ou le thé qui vient de Chine. Et là-dedans, d'autres pays ont réussi à mieux développer leur commerce, et notamment les Anglais, qui se sont implantés de plus en plus en Inde, qui ont quitté un peu leur politique de comptoir pour vraiment s'installer beaucoup plus durablement, et ce sera surtout le cas au XIXe siècle, où ils s'installeront vraiment complètement dans leur colonie. Mais voilà, cette concurrence va faire que les revenus tout simplement diminuent, et donc, voilà, qui dit moins de revenus, qui dit les trois autres problèmes, dit tout simplement que la situation n'est plus tenable. Et après, avec l'avènement de la Révolution française, de nos territoires comme ceux des Pays-Bas qui sont envahis par les Français, on se retrouve avec une nouvelle République batave qui va reprendre à son compte la compagnie en la dissolvant, qui donnera plus tard une colonie indonésienne pour les Pays-Bas. Mais ce sera vraiment la fin des activités de la compagnie, alors que l'anglaise, elle, durera donc jusqu'au XIXe siècle, mais qui à un moment connaîtra également des problèmes pour être finalement... tomber également sous vraiment le giron de l'État anglais, qui commencera vraiment sa véritable politique coloniale, parce que c'est vraiment à ce moment-là, au XIXe siècle, que commencent en Europe les politiques coloniales dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui.
Donc c'est ainsi que se termine notre podcast sur les compagnies des Indes. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de passer cette soirée en votre compagnie.
Merci de m'avoir convié, c'était très agréable.
C'était un plaisir de t'avoir avec nous, on espère que ça se reproduira encore régulièrement.
Mais avec grand plaisir.
Charles, est-ce que tout va bien ?
Tout va parfaitement bien, ravi d'avoir passé ce moment avec vous, hâte d'être à la prochaine, très heureux d'avoir eu Lulu en notre compagnie ce soir, et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Arne, un petit mot ?
C'était une très belle introduction au monde des compagnies, il y a encore tellement de choses à dire, que ce soit sur l'anglaise, la française, les scandinaves, que j'espère qu'on abordera encore le sujet et plein d'autres sujets dans le long avenir qui nous attend. Mais merci en tout cas à vous tous. C'était très intéressant.
En tout cas, voilà, on est ravis d'avoir pu faire ce podcast. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous donner un petit compte-rendu après l'écoute de ce podcast sur notre adresse mail, sur iTunes. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, à liker. Et en tout cas, nous donner votre avis parce qu'on a vraiment envie de s'améliorer un maximum et de savoir ce qui vous intéresse et ce qui vous plaît dans ce podcast. Donc voilà, on est complètement à votre écoute. Donc n'hésitez pas à nous faire part de toutes les remarques pertinentes. En tout cas, on vous dit à très bientôt. On vous fait des gros bisous.
Des gros bisous.
Et on vous dit à la prochaine.
À la prochaine.
Ciao tout le monde.
Salut. Bye bye.
Je vous donne la mousse.